Alors, je vous propose de commencer. Je m'appelle Patrick Baudry. Je suis enseignant à l'Université de Bordeaux 3, sociologue de formation, et donc collègue d'Alain Mons, qui est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université donc, Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Et je suis très heureux de me trouver ici, à la librairie Mola, aux côtés d'Alain Mons pour la présentation de son ouvrage « Les lieux du sensible », sous-titré « Ville, homme, image », qui a été publié aux éditions du CNRS. Alain Mons, donc, professeur de sciences de l'information et de la communication, est l'auteur de nombreux livres. J'en cite quelques-uns. « La métaphore sociale », « L'ombre de la ville », paysage d'images. Je signalerai aussi un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Bordeaux sous sa direction et qui s'intitule « La transition du perçu ». On voit dans cet ouvrage collectif à plusieurs voix que Alain Mons, s'intéresse à une urbanisation diffuse, à une circulation d'images, aux places qu'occupent les technologies, à la dimension d'une esthétisation, et puis à toute la question de la modification des perceptions et du sensible. En sachant qu'au fond, ce que je pense, Mons essaye de saisir, de dire et de raconter, c'est ce qui touche à l'expérience, en soulignant que cette expérience à la fois est mentale et aussi corporelle. Donc la dimension ou la question du corps est très importante dans le travail d'Alain Mons. Et puis on trouve aussi chez Mons, en relation même de ce que je viens de dire, une expérience à la fois mentale et physique, une liaison sans cesse accomplie entre les mondes physiques et imaginaires. Il n'y a pas de coupure ou de césure, de séparation entre ces deux mondes-là. Ce qui intéresse aussi Alain Mons, dirais-je, c'est le trouble ou les troubles. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui s'intéressent à cette dimension du trouble ou qui s'intéressent à analyser un monde troublant. Le mot de trouble ayant plusieurs significations chez Alain Mons, puisque à la fois il peut renvoyer ce trouble à l'idée du mélange ou du métissage, ainsi qu'on trouble un liquide en introduisant un autre liquide par exemple. Le trouble renvoie aussi à l'idée d'un certain désordre, comme l'on parle de troubles urbains par exemple, de troubles dans la rue. Et ce désordre n'est pas lui-même pensé comme ce qui platement s'opposerait à l'ordre. C'est un désordre qui est une reconfiguration peut-être, un rebrassage de dimensions qui s'agencent autrement. Donc il y a une réflexion sur le devenir autre dans ce travail. Et puis le trouble encore peut renvoyer à la bizarrerie, une allure trouble, un air trouble, quelqu'un d'un peu trouble, une bizarrerie qui est aussi une modalité, dirais-je, lorsqu'on privilégie cet axe-là, de compréhension du contemporain. Dans le travail d'Alain Mons, on trouve une capacité d'analyse des mutations, des imaginaires, mais aussi de l'imagination. Et puis, il y a sans cesse une prise en compte de ce que, par exemple, les sociologues appellent le micro, la micro-sociologie, ainsi que Georg Simmel pouvait la pratiquer, par exemple, analyser des moments, des séquences infimes de la vie sociale pour remonter le fil de ce qu'il appelait le contenu et les formes. Au fond, les recherches d'Alain Mons renouvellent les cadres d'intelligibilité des phénomènes sociaux qui sont compris au plan d'une expérience singulière, mais qui aussi mettent en question cette singularité à différents plans de nos sociétés. Et ainsi, il y a dans le travail de Mons sans cesse des traversées. Il ne se cantonne pas, dirais-je, à un objet délimité, à un, comment on dirait, un sujet d'étude. Il y a une volonté de traverser ou d'être traversé par des objets qui eux-mêmes sont mobiles, qui sont eux-mêmes mouvants. Et il y a une volonté de rendre compte finalement de cette mouvance. Et quand je dis que Mons peut s'intéresser à beaucoup de choses, c'est qu'il peut s'intéresser à ce qui se passe dans la rue, dans une séquence tout ordinaire, mais aussi ce qui nous est dit par le film, n'est-ce pas, et plus largement par le cinéma, ou encore dans une analyse des créations artistiques. Donc l'ouvrage « Les lieux du sensible » pose à la fois à l'intérieur de la ville et au travers de la ville, ou au-delà même de la ville, au sens où on la verrait périmétrée de manière classique, un certain nombre de questions qui font, au fond, voyager dans ce qu'on pourrait appeler des secteurs différents, mais justement, ce que Mons nous dit, c'est que ce ne sont pas des secteurs différents, n'est-ce pas ? Ce sont des agencements qui entrent en relation, voilà. Donc il y a une compréhension, dirais-je, très fine, très pointue, très exigeante aussi, de ce qu'on appellerait globalement la modernité. Mais bon, nous autres, gens de sciences humaines, c'est notre objet de recherche à peu près à tous, essayer de comprendre le monde que nous vivons, qu'on va appeler après la modernité ou la postmodernité, comme on voudra. Je crois aussi que ce qui est très remarquable dans le travail d'Alain Mons, c'est une tension, une mise en relation perpétuelle entre, dirais-je, quelque chose qui ressortit à la conceptualisation, une volonté comme cela de trouver des formules, de se saisir de mots, ou d'emprunter, n'est-ce pas, des expressions de type conceptuel à certains auteurs, mais aussi de se préoccuper, dirais-je, d'une narration. Et de ne pas traiter séparément ces deux registres qui sont souvent largement opposés. La conceptualisation d'un côté, qui appartiendrait en propre, a priori, au prince des princes, c'est-à-dire le philosophe. Vous savez bien que certains philosophes sont assez persuadés qu'ils sont à peu près les seuls à penser vraiment. Donc, la conceptualisation, donc une exigence du côté de l'abstraction, d'une certaine manière, et puis, en effet, cette dimension narrative qui passe par la description, et pour reprendre une expression utilisée par Pierre Sansot, une description de peu, qui n'a rien de l'exposé magistral. Alors, ça pose bien, je pense, et c'est très actuel comme réflexion, pour notre société dans sa globalité, et pas simplement pour l'université dans sa particularité, toutes ces relations entre ce que l'on appelle assez vaguement les sciences humaines et sociales, et les lettres, par exemple, l'expérience littéraire, pour reprendre une expression de Maurice Blanchot, ou toute la question énorme, en fait, de l'écriture. Peut-on écrire lorsqu'on est du côté des sciences humaines et sociales, ou est-ce qu'il faudrait laisser cela aux gens dont c'est le métier, la compétence, le romancier, l'écrivain. Si l'on n'est pas écrivain, ne faudrait-il pas modestement se contenter de rédiger ? Écrire, c'est autre chose. Or, en effet, on trouve chez Alain Mons cette volonté de passer par quelque chose de l'écriture, en sachant que cette écriture est elle-même une aventure, un voyage, nous en parlions tout à l'heure ensemble, et qu'elle permet de venir dire ce que, par l'exercice de la parole, l'on n'aurait jamais pu formuler. Et donc aussi cette écriture qui est du côté d'un certain silence, qui n'est pas uniquement une forme de l'expression qui passe par la tenue en main d'un stylo. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Il ne s'agit pas non plus, ça c'est fort à la mode et ça ne mène pas bien loin, selon moi, d'une pluridisciplinarité de convention ou de convenance, hein, où l'on feint de s'intéresser aux propos d'autrui, alors qu'en fait, on juxtapose uniquement des points de vue et des compétences. Il s'agit plutôt, c'est plus difficile, hein, c'est plus ardu, d'un nouage et d'un dénouage en même temps, hein, de logique, de pensée, qui peuvent être prises à certains moments, déconstruites à d'autres. Hein. Le but étant de dire quelque chose de forme communicationnelle. Je ne sais pas si cette expression est bien appropriée, mais il me semble. Hein. Analyser dans leur mouvement, analyser peut-être plutôt dans leur mouvance, hein, et cela jusqu'à l'imperceptible. Alors les lieux du sensible interrogent précisément les environnements perceptifs, sur le mode, comme le dit Alain Mons lui-même dans son introduction, d'une pensée essayante. Hein. Il parle, Alain Mons, de sensibilité pensive, hein, de pensée impressionnante. Hein. On travaille aussi sur la dimension des impressions. Ceci n'interdit nullement la rigueur. En tout cas, c'est un ouvrage tout à fait remarquable, très passionnant, qui, je pense... permet de comprendre certaines dimensions de ce monde qui relie les villes, les hommes et les images. Mais je crois que j'ai peut-être un peu trop parlé pour cette introduction. Je m'arrête donc et nous écoutons Alain Mons qui va nous exposer. C'est un pari un peu impossible, hein, comment parler de son propre livre, puisqu'on si on l'a écrit, c'est qu'on ne l'a pas lu. Hein.
Surtout après tout.
comment parler de son propre livre, mais je sais qu'il sait le faire, et il est toujours passionnant quand on l'écoute. Donc on l'écoute, puis ensuite, si vous voulez bien, on discutera avec lui.
Ben, merci beaucoup, Patrick. Je ne sais pas si j'ai grand-chose d'autre à dire après ce que tu viens de... d'évoquer par rapport à mon ouvrage. Merci beaucoup, vraiment, ça me touche énormément. Et, oui, bah alors, le problème, si vous voulez, c'est, au fond, on écrit un livre pour ne pas le dire, en fait. Vous voyez, c'est ça le hiatus, un peu le paradoxe, c'est que si on écrit, en un sens, enfin, moi, c'est ce que je ressens, si vous voulez, c'est parce qu'on ne peut pas dire les choses oralement, par exemple. Donc l'écriture a cette spécificité, si vous voulez, d'une forme d'expression qui est en deçà ou au-delà de la parole que je pourrais avoir ce soir, par exemple, par rapport à mon ouvrage. Alors, ce n'est pas une façon de me dérober par rapport à cet exercice, hein, que je dois faire ce soir, mais... C'est aussi pour renvoyer à cette singularité, à la spécificité de l'écrit, de l'écriture, dans laquelle moi je me sens assez bien, dans laquelle j'évolue, si vous voulez, peut-être de façon plus aisée que dans une parole publique, par exemple. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc il y a une dimension secrète du livre que je ne pourrais pas forcément, si vous voulez... dévoilé là ce soir, donc c'est à vous d'aller voir peut-être éventuellement. Et puis ce que je vais faire aussi, parce que justement pour rendre compte de cette tonalité, de cette couleur de l'écriture, c'est de temps en temps vous lire des passages du livre, hein. Pas du tout pour vous abreuver, hein, mais pour que vous entendiez, que vous écoutiez, si vous voulez, cette écriture qui m'est propre, si vous voulez, et qui en partie m'échappe d'ailleurs, hein, vous voyez, en un certain sens. Et ce que je voulais dire aussi, un petit peu pour continuer, mais aussi pour mettre les choses au point, en fait, depuis mes travaux du début, hein, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est justement le reste. C'est... une fois que tout a été rationalisé, une fois que tout a été signifié, une fois que tout a été montré, esthétisé éventuellement, qu'est-ce qui reste? Et c'est ça qui m'intéresse finalement. Hein, beaucoup plus que justement les processus d'hyper-rationalisation et de gestion de la pensée symbolique. Hein. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'impondérable, c'est l'intotalisable, pour reprendre une expression d'un philosophe récemment, hein, une phénoménologie de l'intotalisable. C'est le singulier, évidemment. Hein. Donc, je pratique plutôt ce qu'on pourrait appeler une anthropologie singulière du contemporain, si vous voulez, ou une anthropologie étendue du contemporain. Et le livre, Les lieux du sensible, sont l'expression, si vous voulez, de cette démarche qui tente d'appréhender, mais vous voyez, déjà avec le verbe appréhender, on est dans une sorte de crainte aussi. Hein. J'appréhende des choses. Hein. Je ne me les saisis pas de manière absolue et dans un fantasme de maîtrise. J'essaie d'appréhender le réel tel que nous le percevons. Hein. Exemple, la ville et sa quotidienneté dans ses différents déploiements, mais aussi des pratiques comme ceux des arts contemporains, mais aussi des productions photographiques ou cinématographiques. Et je tente, si vous voulez, d'articuler ces zones du trouble, justement, comme on disait, dans une démarche qui rendrait compte de façon à la fois spéculative et sensible de cette complexité du réel à laquelle je pense. Hein. Donc, par exemple, il y a ce que j'appelle la ville interstitielle, ce qu'on pourrait appeler la ville interstitielle, c'est-à-dire c'est une ville qui intègre toutes les dimensions que j'évoque dans les quatre parties de mon livre, c'est-à-dire l'image, le corps, le mouvement et la perception. Voilà, c'est une ville qui intègre toutes ces dimensions-là, si vous voulez, hein, la ville interstitielle. Et aussi, je pense que lorsque je suis dans des lieux, lorsque je fréquente certains lieux, quels qu'ils soient, hein, ça peut être donc des lieux urbains, mais ça peut être aussi des lieux paysagers, ça peut être aussi des lieux culturels, dans le sens, par exemple, un théâtre ou un musée, etc. Ces lieux m'affectent. Et en retour, je les affecte. Donc, ces lieux m'affectent. Ça veut dire que, effectivement, quelque chose de mon être, de mon corps, est touché au plus profond, si vous voulez, de soi. Hein. Mais évidemment, en retour, si je suis touché, en retour, j'affecte ces lieux par mon regard, par ma perception. Donc là, on est bien, si vous voulez, dans une logique merleau-pontienne, hein, de réciprocité du sensible, où mon corps, qui est pris dans la rue, par exemple, je vois la rue là derrière, c'est pour ça que je pense à cela, mon corps qui est pris dans la rue, évidemment, s'imprègne des formes visuelles, mais aussi des formes beaucoup plus obscures que cette rue met en jeu au moment où j'y suis, si vous voulez. Donc mon corps est affecté par cette situation de la rue, mais en retour, par ma façon d'être, par mon comportement et par mon regard, j'affecte aussi la rue en question. La rue en question ne serait pas la même si je n'étais pas là. Et je parle de chaque individu, et des individus ensemble, en même temps. Hein. Et dans cette même rue, il se trouve qu'il n'y a pas que des corps, il y a aussi des bâtiments et il y a aussi des images. Et là, j'ai un chapitre, peut-être je pourrais d'ailleurs à l'occasion lire ce passage. J'ai un chapitre qui s'appelle « Le peuplement des images ». et donc qui met l'accent, si vous voulez, sur le fait que dans l'espace public, dans la rue, il y a des icônes, il y a des images auxquelles je me confronte ordinairement, quotidiennement, de façon même subreptice. Alors, par exemple, il y a ce passage, page 22, je me permets de lire ce que j'ai écrit là-dessus. Page 22. Alors, il s'agit des images publiques. Alors, ces images publiques peuvent être des images publicitaires ou des images artistiques qui sont implantées, si vous voulez, dans la rue. Ces images induisent un milieu paradoxal engendré par les artefacts des regards que nous portons sur les corps iconiques des flux. Elles redécoupent l'espace en autant d'interférences, de connexions ou de disjonctions des regards entre eux et avec l'icône implantée, créant un contexte particulier et momentané. Nous pratiquons alors assez ostensiblement l'art de voir sans voir, comme le nomme le sociologue Jean-Claude Kaufmann dans une étude à propos de la nudité des corps féminins sur la plage, à ce détail près que les corps physiques du plein air sont remplacés par des corps fictionnels dans la dénudation visuelle. Mais le regard est semblable, à la fois fixe et oscillant, entre le vu et le pas vu. Dans notre expérience, nous apercevons les affiches publicitaires plus que nous les percevons, à l'encontre peut-être de ce que peuvent escompter les publicitaires. Car l'aperçu est la réponse sociale, ordinaire, ponctuelle, à l'imposition du voir ordonnée par la densité des images. Voilà, c'est un passage parmi d'autres pour vous donner un petit peu la coloration de l'écriture du livre, si vous voulez. Là, on est évidemment, je prends cet exemple de la rue, mais on est dans ce que Patrick évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire dans des zones du trouble. En fait, les zones du trouble, ce que j'appelle les zones du trouble, se caractérisent par le jeu permanent, par la translation entre le perçu, l'aperçu et l'imperceptible. Si vous voulez. Ce que je constate de façon un peu évidente, c'est que nous sommes, nous, sujets humains, appelés à fonctionner dans cette trilogie, dans cette translation entre la perception, l'aperçu et l'imperceptible. Alors cela se passe dans la ville, mais cela se produit aussi dans les arts contemporains. Et il me semble que là, si vous voulez, ce que je propose aussi dans mon ouvrage, c'est une sorte de voyage, on le disait tout à l'heure, qui permet de comprendre que ce qui se passe là, dans l'espace social, se passe aussi dans l'espace de la création artistique. Et je prends l'exemple de la danse contemporaine. Alors là aussi, permettez-moi de lire un passage concernant un chapitre qui s'appelle « Danse contemporaine et scène débordée », je crois. C'est page 146 du livre. Bon, ça va être un peu plus rapide. Oui, c'est dans un chapitre intitulé « Danse contemporaine et échappée scénique ». Alors, vous verrez l'analogie, enfin, du moins le rapprochement que nous pouvons faire avec ce que je disais de la rue tout à l'heure. Et là, je ne parle pas de danse urbaine, il s'agit de la danse contemporaine. « Le corps se dérobe selon la même tournure dans la ville et dans la danse contemporaine. » Ici se situerait l'hypothèse d'une analogie possible. C'est pourquoi ce corps dansant hérite d'une expérience urbaine quotidienne, du moins il en est l'empreinte dérivée transversale. En effet, Il est visiblement agité par des zones incertaines, par des failles, par des trafics de toute nature. Comme la ville moderne, il s'offre selon une pure surface de visualisation dans son apparence, mais il est hanté, travaillé par ses entrailles, sa partie viscérale. Le jeu du cachet montré peut se déployer à loisir dans les transparences elles-mêmes, les superpositions ou les surimpressions des corps, tout comme la ville captée par les photographes comme Bernard Plossu, Alexis Titarenko, Lindel Pierre, comme nous l'avons souligné antérieurement. Ça, c'était un chapitre sur la photographie. On voit bien, et ça c'est aussi un leitmotiv qui traverse, si vous voulez, mon ouvrage, c'est que la question de l'intime se situe dans un dehors-dedans ou dans un dedans-dehors permanent. Il y aurait, si vous voulez, consubstantialité et étrangeté simultanément dans l'expérience de la ville et de l'art contemporain que nous pouvons faire aujourd'hui. Alors, non seulement dans la rue, dans l'espace public, n'est-ce pas, avec les arts visuels. Alors, j'ai cité la chorégraphie contemporaine, mais je parle aussi du cinéma et de la photographie, la première partie sur les images des villes. Hein. Non seulement cela, mais en plus, chez soi, cette oscillation, cette tension entre le dehors et le dedans se produit à l'intérieur de son appartement. Hein. Alors, j'ai un chapitre, disons, sur ce que j'appelle l'appartemental. Vous voyez, bon, c'est un néologisme. Hein. L'appartemental, c'est-à-dire que pour moi, vivre, puisque moi, je vis dans des appartements. Il y a des gens qui ont la chance de vivre dans des maisons grandes et tout. Hein. Moi, je vis dans un appartement. D'ailleurs, dans plusieurs villes, enfin bon, bref, c'est un peu compliqué, hein, je ne vais pas vous raconter ma vie. Ça m'a amené aussi vers cette réflexion d'une anthropologie singulière du contemporain, à savoir cet appartement qui est, si vous voulez, le lieu même du retrait, n'est-ce pas ? Qui est le lieu de l'intime. Qui est le lieu où je peux me lover sur moi-même, hein, est au creux de la ville, est en creux de la ville. Hein. C'est ça qui est très intéressant. C'est comment, si vous voulez, du point de vue existentiel, comme on dit en philosophie, hein, d'un point de vue existentiel, d'un point de vue d'une anthropologie existentielle, si vous voulez, l'appartement constitue un point de jonction remarquable entre la subjectivité et l'expérience du dehors, hein, si vous voulez. Donc, c'est une expérience mentale, l'appartement, à proprement parler. Mais la maison aussi, hein, je pense. Hein. Je parle de l'appartement que je connais bien, mais la maison aussi, bien entendu. Hein. Donc, là, je peux vous lire aussi un autre passage qui concerne le chapitre « Appartement fissure », c'est page 89, je crois. Voilà ce que j'écris. « L'appartement, bien plus que la maison », excusez-moi pour ceux qui ont des maisons, « l'appartement, bien plus que la maison, se dispose et s'élabore comme un battement existentiel entre la ville et l'intimité, entre le dehors et le dedans. Étant entendu, malgré tout, que cet entre-deux nous tire vers un dedans, vers la grotte mystérieuse dont nous parlions. Ainsi, l'habitant vaque à ses occupations, il va et il vient, il sort, il rentre quotidiennement, Son corps est pris dans cette oscillation, parfois vécue comme une tension, un entre-deux mondes. Du reste, il n'a pas le même comportement, la même présence, le même corps dans l'appartement et dans la rue. L'individu bascule incessamment du privé au public, du secret de son intimité au stade manifeste de la vie publique. Le jeu du cachet montré peut alors se déployer dans les pratiques de va-et-vient entre chez soi et la rue, non sans difficulté parfois. Car nous gardons du caché dans notre visibilité sociale et du montré nous poursuit jusque dans notre espace intime, tourmenté par l'extérieur, n'est-ce pas ? D'autant plus que la mondialisation déboule directement chez soi aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que ce qui est particulier à cette contemporanéité, c'est que justement l'appartement est fissuré et troué de toutes parts par les dispositifs de télécommunication, Internet, téléphonie, télévision, etc., multimédia. Hein. La situation semble se compliquer quelque peu, puisque, au fond, cet appartement qui était le lieu de l'intime, du retrait, se redéploie autrement vers un dehors, vers une extériorité mondialisée à travers donc les télécommunications. L'appartement est percé, troué de toutes parts. Et il s'agit pour les habitants de reterritorialiser leur appartement en fonction de cette situation tout à fait inédite, d'un trouage du lieu privé. Hein. Quoique, la réflexion que je peux avoir, c'est que les lieux n'ont jamais été clôturés. Quoi. Hein. C'est historiquement... il y a une propension, si vous voulez, à ce que les lieux se déterritorialisent, que les lieux s'ouvrent vers l'extérieur. Ce que disait très bien aussi, à sa façon, Walter Benjamin, quoi, hein, avec le fameux texte sur le promeneur dans la ville, etc. La chambre, la ville est une chambre et est un paysage en même temps, hein, en un certain sens. Donc tout ça... fait réfléchir vers la question des territoires existentiels. Et là, je reprends un concept de Félix Guattari, hein, très, très intéressant. Bon, c'est vrai que mon ouvrage, je dois le préciser, cet ouvrage-là en particulier, il est marqué par Deleuze, hein, par Deleuze-Guattari. Hein. Il est assez marqué par Deleuze-Guattari à cette période-là, hein, si vous voulez. On en reparlera, oui. Mais toujours est-il que la question effectivement des territoires existentiels dans lesquels nous vivons, qui sont multiples, urbains, artistiques, intimes, sportifs pour certains, hein, amoureux, je ne sais quoi encore. Hein. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qui se dérobe à nous, quoi. Hein ? On prend l'expression de Henri Michaud, face à ce qui se dérobe. Hein, voyez ? Tous ces lieux du sensible que je viens d'évoquer à l'instant se dérobent à notre compréhension, du moins. Hein, en partie à notre perception aussi, mais pas complètement. Hein. Mais en tout cas, ce sont des lieux qui se dérobent à notre compréhension. Ces expériences des territoires existentiels dans la ville, dans la rue, dans l'art contemporain, j'en reparlerai si vous voulez, dans l'intime, dans l'appartement, dans le privé, toutes ces expériences existentielles, si vous voulez, se dérobent à ma compréhension, se dérobent à la signification même qu'on peut en donner. Hein. Alors, il me semble que par rapport à cette question, si vous voulez, de l'insaisissable, du dérobement, du trouble, d'autres diraient même du flou que souvent dans les sciences humaines, on délaisse. Souvent dans les sciences humaines, tous ces termes que je viens de souligner avec vous sont méprisés ou inquiètent, hein, c'est moins qu'on puisse dire, parce qu'il en est du non-rationnel. Il en est de la question, non pas de l'irrationnel, hein. C'est encore autre chose, si vous voulez. Je ne suis pas le genre à tomber dans l'ésotérisme, quand même. Hein. même si, je méprise pas. Hein. Mais dans le non-rationnel, voilà. Hein. Dans le non-rationnel. Voilà, dans notre société hyper moderne, hyper contemporaine, qui se veut... très rationnel, n'est-ce pas, hein? On voit bien que ce sont les processus non rationnels qui, au fond, travaillent souterrainement, mais même explicitement, les processus politiques, économiques et sociaux et esthétiques. Hein? Donc la question du non rationnel explose aujourd'hui, comme on le voit, par exemple, dans l'économie, quoi. Hein? Je ne suis pas économiste, je ne suis pas compétent en économie, mais quand j'entends les économistes eux-mêmes, ils ne savent plus du tout où ils en sont. Hein. Ils sont désorientés, si vous voulez, hein, il me semble. Hein. Les hypothèses se multiplient, se chevauchent les unes par rapport aux autres. Et en fait, il y a une grande indétermination quant à savoir la situation exacte et comment l'analyser. Aujourd'hui. Hein. Pareil pour le politique, pareil pour le social, etc. Il me semble, hein, si vous voulez, que la puissance du non-rationnel se manifeste ostensiblement aujourd'hui. Hein. Alors, il est vrai que dans d'autres ouvrages, par exemple sur la photographie, hein, la photographie et la ville, je me suis dit, ben, la ville, dont je ne sais pas s'il y a des urbanistes ou des architectes dans la salle, mais je me suis dit, la ville, on ne peut pas l'aborder frontalement, quoi. On ne peut pas l'aborder directement. Il s'agit d'avoir une autre stratégie, une stratégie oblique qui permet d'appréhender la manifestation réelle de la ville dans ce cas-là de quotidien, d'ordinaire, par des biais, de façon oblique, par un regard oblique. Il m'a semblé... très clairement que, par exemple, les photographes, pour ceux qui m'intéressaient, du moins, avaient ce regard oblique, ce regard transversal sur la ville. Hein. Donc, pour comprendre quelque chose du mouvement de la ville, je ne dis pas de la structure urbaine, je ne dis pas de l'ordre politico-économique de la ville. Ça, ça existe, je ne le nie pas, et il y a des gens compétents pour en parler. D'accord. Mais moi, et d'autres, hein, je pense à, par exemple à François Laplantine, à l'anthropologue François Laplantine, ou bien au regretté Pierre Sanceau, hein, le sociologue Pierre Sanceau, ou Louis-Vincent Thomas, que nous avons connu, etc. Et Patrick, bien entendu, mais bon, évidemment. Nous parlons d'autre chose. Hein. Et nous parlons d'un mouvement, d'une translation, d'une transition presque secrète, hein, d'une scène secrète. En fait, je voulais dire ça, oui. Nous parlons d'une scène secrète. Et Michel de Certeau, que tu as connu très bien, etc. Nous parlons de la scène secrète de la ville. Hein. C'est ça qui nous intéresse, si vous voulez. Pas de la scène officielle, institutionnalisée ou manifeste de la ville, dont on peut parler aussi, hein, bien entendu, et je respecte les gens qui en parlent. Hein. Certains en parlent très bien, hein. Les historiens, des urbanistes, des géographes, ok. Mais moi, je veux parler d'autre chose, de la scène secrète, comme dit Michel de Certeau, c'est-à-dire de cette dimension opaque, obscure de la ville, que nous vivons bel et bien dans notre corps, dans notre chair, hein, et dans notre inconscient aussi. Hein. Et il me semble que pour comprendre cette scène secrète de la ville, il faut aller du côté des artistes. Hein. Il faut aller du côté des créateurs de formes visuelles. Ça peut être des cinéastes. Hein. Je pensais à David Lynch, hein, par exemple. Mais Antonioni, etc. Bon. Mais c'est aussi, ce sont aussi des photographes. Hein. Donc, j'ai un chapitre dans mon livre, là, qui fait écho à un autre livre que j'avais écrit il y a longtemps, L'ombre de la ville. Mais il y a un chapitre dans mon livre sur la photographie et les confins de la ville. Hein. Ce que je vois, effectivement, c'est que des photographes américains comme... Robert Frank, par exemple, William Klein ou Gary Winogrand, hein, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, Léon Levitstein, hein, mais ça, c'est des photographes américains plutôt de l'après-guerre. Hein, ont pris comme objet le dérobement de la ville. Hein, le dérobement de la ville est devenu l'objet de ces photographes, si vous voulez. D'autres photographes plus récents, alors cette fois-ci français, hein, comme Bernard Plossu, Xavier Lambourg, bon, je peux citer plein de noms, hein, Marc Gibert, etc. Hein, par exemple, un grand photographe aujourd'hui, c'est Bernard Plossu, je crois, hein, qui s'intéresse aux trouées dans la ville, aux opacités de la ville. Voyez, donc on en vient à toujours à cette scène secrète, hein, qui se produit presque à notre insu, en quelque sorte. Hein. Alors là, par exemple, je peux lire un passage, si vous voulez. Page 60, je crois. Où j'ai écrit... Comme souvent dans la photographie qui fixe un fragment d'espace et de temps, la situation semble indéterminée. Cette signifiance du moment, ce flottement du sens, est d'ailleurs caractéristique du travail de Bernard Plossu. Il capte les milieux, non pas frontalement, directement, mais de manière détournée, oblique, à travers des trouées, des embrasures, des fissures. Comme si on ne pouvait pas voir l'étendue du réel, mais seulement l'entrevoir par des passages, des chicanes, où le regard peut se glisser comme par accident. Voilà, alors, il me semble que aussi l'art contemporain, dans sa dimension... carrément atmosphérique, comme on disait tout à l'heure, hein, puisqu'il s'agit effectivement de capter des climats, des atmosphères qui sont ceux de la scène secrète que j'évoquais, si vous voulez, à travers la pratique des arts contextuels, des arts topographiques, parce que vous savez que beaucoup d'artistes maintenant s'emparent des lieux, pratiquent, si vous voulez, un art contextuel, topographique, et le lieu devient lui-même l'objet à exposer en tant que tel. Hein. Et là, on est dans ce que j'évoquais au début, si vous voulez, à savoir... une affectologie, dans le sens où ces lieux m'affectent en tant que visiteur du lieu, si vous voulez, mais je les affecte par mon propre corps, et ça, c'est complètement pensé par un certain nombre d'artistes contemporains. Je cite dans mon livre Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Michel Blasi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui pratique ce qu'on pourrait appeler un art bio-organique. Il a exposé au Palais de Tokyo il y a 3 ans à peu près. Hein, dans cette exposition, on voyait des matières organiques en évolution et qui se décomposaient, si vous voulez. Hein. Donc, au fur et à mesure, les matières organiques travaillent de lieu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution de ces matières organiques, indépendamment de l'artiste d'ailleurs, hein, notre perception du lieu change. Vous pouviez venir peut-être pas tous les jours, parce que ce n'était pas aussi rapide, mais de semaine en semaine, si vous voulez. On ne voyait pas tout à fait les mêmes formes. Et donc, la perception du lieu était elle-même affectée, si vous voulez, par cette transformation des matières organiques utilisées par cet artiste. Hein. Ou bien, je pensais aussi à un artiste anglais qui s'appelle Steve McQueen, hein, qui est cinéaste aussi. Et cet artiste, si vous voulez, propose des installations qui, en fait, sont des sortes de lieux obscurs où le spectateur-visiteur pénètre et à ce moment-là est affecté lui-même par l'obscurité du lieu et par les scintillements lumineux qui apparaissent, disparaissent continuellement dans cet espace. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, non seulement c'est le lieu, mais c'est aussi le corps du spectateur qui devient l'œuvre en tant que telle. Hein. Au fond, nous assistons à l'expérience de l'expérience. Et puis, bien sûr, un artiste vidéaste aussi connu que Bill Viola, avec ses scénographies vidéo, des apparitions-disparitions du corps. Hein. Et je signale que Bill Viola va avoir une très grande exposition à Paris, là. Je crois que c'est au Grand Palais, hein, bientôt. Bon, ça va être très, très impressionnant, parce que quand on connaît le travail de Bill Viola, qui est celui d'une immersion de l'image, hein. Enfin, c'est plus compliqué que ça, c'est une immersion et en même temps, c'est une opacité de l'image qui nous sont données pareillement dans la perception que nous avons à ce moment-là de la création visuelle. Hein. Mais là aussi, il s'agit d'investir un espace, un lieu, de transformer le lieu, si vous voulez, et le lieu dans la façon de disposer les écrans devient l'œuvre d'art comme telle. Hein. Je pensais à une vidéaste aussi finlandaise, Lisa Attila, pareil, hein. Non seulement ce sont des gens qui créent des images, mais ils pensent l'installation des images. Ils créent les images en fonction de la mise en disposition des écrans et des images dans le lieu, dans l'espace. Hein. Donc tout est lié pour eux, hein, d'une certaine manière. Et puis enfin, je pensais aussi à un artiste italien, Parmigiani, hein, qui investit des appartements, des chambres, des maisons en décrépitude, hein, et travaille sur la question des traces, des empreintes, des poussières, avec ce qu'on pourrait dire une sorte de métaphysique des surfaces et une physique des profondeurs. Hein. Renverser les termes un peu consacrés, hein, la métaphysique des surfaces et la physique des profondeurs, ça renvoie aussi là à une réflexion de Gilles Deleuze dans Logique du sens. Bref, des variations climatiques, là aussi, assez subtiles de l'art contemporain et qui renvoient à la question d'un réel imaginaire. Question d'un réel imaginaire que, bien sûr, les artistes contemporains, les meilleurs, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas bons du tout, hein, faut faire la part des choses, hein, dans l'art contemporain, bien sûr. Mais il y en a qui sont pas mal, qui sont intéressants. Mais les artistes contemporains, si vous voulez, font l'exercice de l'intensification du réel imaginaire qui travaille toute la société. Hein, voyez, c'est pas forcément séparé de la, du reste de la société. Cette question du réel imaginaire ou d'une réalité fiction travaille toute la société hyper moderne, hyper médiatique que, dans laquelle nous sommes, bien entendu. Hein. Enfin, bon, parce que je veux pas être trop long, juste un mot pour finir, peut-être ma présentation. c'est vers la fin de mon ouvrage, si vous voulez, les lieux du sensible. En fait, je m'interroge sur l'esthétique générale, l'esthétique généralisée dans laquelle nous serions. Hein. Alors, je sais bien qu'il y a des sociologues et philosophes, Gilles Lipovetsky, qui récemment a publié un ouvrage sur l'esthétisation généralisée, si vous voulez. Hein. Mais ça pose une question, comment dire, d'ordre philosophique, quoi. Enfin, d'ordre, comme on le dit à l'université, épistémologique, hein, à savoir cette esthétique générale est-elle déjà dans la nature, hein, la question que pose, même l'affirmation de Roger Caillois, l'esthétique est inhérente à la nature, hein, en un certain sens. Elle est en articulation totale. L'esthétique ne serait qu'une excroissance, n'est-ce pas, de la nature. Hein. Et les artistes seraient là, en quelque sorte, pour dévoiler cette beauté, entre guillemets, qui est déjà inhérente à la nature. Il suffit de la voir. Hein. Donc là, on est dans le dévoilement heideggerien du réel, en un certain sens. Hypothèse assez séduisante, hein, quand même. Ou bien l'autre hypothèse, qui est celle du culturalisme, en fait, hein, ou du constructionnisme, à savoir que l'esthétique, ou bon, la beauté, mais reste à savoir si l'esthétique se résume à la beauté. Moi, je crois pas. Hein. Je pense qu'il y a, dans l'histoire de l'esthétique, il y a autant de laideur que de beauté. Vous voyez, bon, on n'est pas forcément dans, dans les catégories de du beau ou de la science du beau, hein, puisque le dégoût, par exemple, est autant d'importance que le goût, hein, en ce qui concerne le jugement esthétique. Hein, vous voyez. Bon, enfin, ce que je voulais dire, c'est la deuxième hypothèse, vous voyez, c'est l'esthétique, et je parle de l'esthétique urbaine, par exemple, vous voyez, ou l'esthétique dont on vient d'évoquer, là, avec l'art contemporain ou la photographie, etc., seraient des constructions culturelles. Hein, seraient de purs artefacts, de pures constructions culturelles, donc purement humaines, quoi, ou sociales, si vous voulez. Hein. Moi, il me semble qu'il faut sortir de cette impasse. Enfin, comment dire, de cette opposition, voilà, de cette double impasse. Hein. Parce que, en même temps, il est indiscutable que il y a bien des constructions culturelles de l'esthétique, à travers l'art, par exemple. Hein. Ça me paraît assez évident. Hein. Mais en même temps, n'est-ce pas une dérive anthropomorphique, hein, anthropocentrique, de considérer que c'est l'homme, vous voyez, même l'homme en société, pardon, hein, c'est l'homme en société, hein, qui serait uniquement à l'origine du processus des formes. Chose que contestait d'ailleurs le grand historien de l'art Henri Faucillon. Un livre très intéressant sur la vie des formes. Hein, voyez. Donc voilà, c'est un peu le questionnement que j'ai à la fin du livre. Donc je pars de choses, vous voyez, un peu différentes. Et ceci constitue ce que j'appelle les lieux du sensible. En fait, c'est le titre, hein, les lieux du sensible. Il s'agit d'éclairer les lieux à travers la question du sensible. qu'on réintroduit dans les sciences humaines, ce qui n'est pas un mince travail, hein, donc rééclairer la question des lieux par le sensible, mais rééclairer aussi la question de l'existence sensible par l'apprentissage des lieux, hein, par l'expérience des lieux. Vous voyez, on est dans ce double mouvement.
Merci Alain. J'avais envie, juste après t'avoir entendu, de lire un passage, deux passages en fait du livre. C'est dans le chapitre appartement fissure, hein, page 89-90. Ouvrir la porte du logement, passer le seuil, dévaler les escaliers de l'immeuble, arriver dans la cour, croiser des voisins, leur faire un signe, puis se projeter dans la rue, être investi par tous les bruits ensemble, être confronté à la foule, à des regards autres, devenir un étranger soi-même, soudainement. Observer les formes urbaines, faire attention à tous les signes pour s'intégrer à la ville, être pris dans le désir d'un visage, d'un corps apparu et disparu, ou se sentir absorbé, écrasé, par la masse critique du mouvement urbain, puis revenir à l'appartement, remonter au troisième étage, tourner la clé de la serrure, ouvrir la porte, refranchir le seuil, fermer la porte, pénétrer, laisser tomber son sac, sa veste, souffler, s'allonger sur un canapé, ouvrir le réfrigérateur, allumer la chaîne Wi-Fi, se sentir vidé, ou reprendre possession de soi, ou bien être le jouet de ces deux impressions à la fois, dans une polarité indistincte. Tous ces gestes, ces mouvements, ces esquives, ces va-et-vient, ces glissements de soi à l'autre, ces battements du dedans et du dehors, ces métamorphoses infinitésimales, ces humeurs, constituent des moments primordiaux de l'être là, jeté ici et maintenant, mais préparé, délié, puis relié, absent et présent successivement, apparu et disparu, dans une sorte de fondu enchaîné de micro-événements, de moments disparates. L'épaisseur de ces glissements, de ces mouvements quotidiens s'ébauche dans une sorte de tragédie insoupçonnée dont le cinéma a pu rendre compte avec des auteurs comme Bergman, par exemple, mais aussi dans la pop chorégraphie, comme certaines créations scéniques de Sacha Valls, exemplaires de ses esquisses et de ses esquives des corps, dans un appartement qui se défait lui-même par tensions successives. Le huis clos des existences bascule vers le dehors par l'enchaînement des images scandées. Ainsi, la ville devient le creux, le vide, où se dilatent et se transforment les vies intérieures. Ce trou n'a rien de pathétique, au contraire, car cette fluctuation semble être aléatoire, inscrite comme une énigme, dont la poétique du cinéma nous révèle la teneur et la vitalité. En ce sens, la tragédie est l'antidote du pathétique. Et ça continue. Et puis, un autre passage que j'avais envie de lire. Il s'agit de Raymond Depardon, qui est aux États-Unis, à New York. Il doit faire des photos pour un journal. Il doit envoyer chaque jour une photographie. Et puis, au bout d'un moment, cette monce-là qui parle, une mélancolie s'empare de Depardon en ce bel été, une sorte d'ennui et de décalage par rapport à la ville où il se trouve physiquement. Il prend des photos new-yorkaises alors qu'il pense à la campagne française durant l'été qui semble le hanter subrepticement comme un regret de ne pas y être. Ainsi, les meilleurs clichés de Depardon semblent être ceux d'où émanent le désaccord et l'écart entre l'image de la réalité brute captée mécaniquement, une rue de New York, et l'image mentale du photographe, songeant au champ de blé, en France, par exemple. Comme si cette dernière, bien qu'invisible, se superposait à ce qu'on voit dans l'image de façon subtile, imperceptible, impalpable, et en changeait la donne, sans que l'on sache pourquoi exactement. Les meilleures photos sont celles où le sujet s'absente pour laisser place à une spectralité sans qualification, mais incarnée en quelque sorte. En même temps, l'image est habitée par cette absence, elle est remplie par ce décentrement de la subjectivité, elle est intensifiée par ce glissement des perceptions. Cela peut être magnifique dans une saisie photographique qui nous dessaisit, dans un même geste de toute prétention topographique à repérer et à signifier les espaces. Voilà, je voulais citer ces deux passages que je trouve très beaux. Et qui sont de nature un peu différente, parce que d'un côté, bon, on est vraiment dans une espèce de description de soi, sortant de chez soi, puis rentrant chez soi, et puis là, on est avec autre chose, ouais. On est avec Depardon, et ce caractère quelque peu intriguant tout de même, que, ouais. Au final, il semblerait que les meilleures photographies sont celles où il s'est passé quelque chose que Depardon ne pouvait pas tout à fait contrôler, hein, et qui dépasse finalement la compétence mécanique, fortement, bien sûr, de la photographie. Ouais. Bien voilà. Merci à Alain Mons. Je vous propose de nous arrêter là parce qu'il est déjà bientôt 7h30. Je crois qu'il faut s'arrêter à cette heure-là. Voilà. Merci pour votre venue.
Merci à
toi.
Merci.
Bonne soirée.